Chapitre 59. Que se lève un monde nouveau. Tous les ados s'étaient spontanément rassemblés dans la cour du château, devant le bassin des grandes eaux. Personne n'osait parler. Tous attendaient, dans un silence total rappelant celui de la veillée du sanctuaire, même si le soleil brûlant de l'après-midi remplaçait le froid nocturne glacial au-dessus de Paris. Certains pleuraient, tels Leonarda, Pastor, Moebia, Liu et tant d'autres. Tant d'autres qui se tordaient les mains, se rongeaient les ongles ou se balançaient d'un pied sur l'autre pour ne pas montrer que leurs jambes tremblaient. De nombreux couples formés lors du grand bal, Suzy et Matifou ou Philao et Florentine, s'étaient naturellement rapprochés et s'étreignaient avec tendresse pour conjurer l'insondable détresse. Seuls, Augénor, Jean d'Arc et Vanille se tenaient en haut des marches dominant le parc. Vanille prit la parole. Sa voix paraissait presque surnaturelle, tellement le silence était pesant.
« Je dois vous reposer la question, »
se contenta-t-elle d'annoncer.
« Une question simple à laquelle vous répondrez par oui ou par non. Les enfants prématurés sont-ils des êtres humains normaux ?»
Elle balaya du regard la foule traumatisée par l'assassinat de Solario et le suicide de Pou.
Que ceux qui pensent non, cette fois, lèvent la main.
Vanille n'avait pas terminé sa question que déjà la totalité des bras devant elle se levait, avec calme et gravité. Si quelques adolescents pensaient encore le contraire, ils n'osèrent pas l'exprimer à main haute, à voix haute, et restèrent dissimulés dans la forêt de bras tendus. Le grand cerf s'avança de 3 tours de roue jusqu'au rebord des marches et s'arrêta devant les 200 ados. Sa voix était puissante et solennelle.
« J'aurais aimé me tromper, »
commença-t-il en pointant un doigt vers le ciel.
« J'aurais tant aimé me tromper. J'aurais tant aimé que ces prématurés soient des êtres humains complets, à qui l'on puisse faire confiance, qu'on puisse les considérer comme nos égaux. J'aurais tant aimé qu'ils puissent rejoindre notre communauté, l'enrichir, l'agrandir. » Je ne blâmerai pas ceux qui ont fait preuve de générosité, ceux qui ont cru sincèrement que ces enfants prématurés pouvaient être apprivoisés. Il faut toujours faire preuve de tolérance et de générosité. Toujours. C'est ce que Marie-Lune nous a enseigné. Mais il faut le faire avec le sens des responsabilités, sans perdre jamais de vue la défense de notre sécurité et sans jamais renier les valeurs qui sont les nôtres. Celle que notre mère a tous, nous a léguées. Aujourd'hui, Solario nous a quittés. Je ne vais pas mentir, il n'est que la première victime d'un monde que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons qu'à peine exploré. D'un monde sans doute riche de trésors qui nous sont encore inconnus et d'une diversité insoupçonnée, mais d'un monde tout autant hostile et dangereux. Nous devons être forts, organisés, unis, et ne jamais douter de notre identité, celle qui fait de nous les gardiens du monde d'avant, du monde de nos parents, de nos grands-parents et de tous ceux qui les ont précédés. Celle qui fait de nous des héritiers du monde d'hier et les bâtisseurs du monde de demain.
Il n'y eut aucun commentaire, aucun applaudissement, seulement des raclements de gorge. Pourtant, sans échanger un mot, tous comprenaient qu'à 15 ans, ils venaient brusquement de quitter l'adolescence, de devenir des hommes et des femmes, et que dans leur vie d'adulte, chaque jour, le discours que venait de prononcer Augénor les guiderait. Avec des gestes raides et lents, Jean d'Arc hissa le drapeau du grand cerf en haut du mât planté devant le bassin des grandes eaux. Soutim, seulement accompagné de Caméliane au corps et de Mouk au tambour, chanta « Nous, les enfants du nuage, à plein poumon. » Les yeux s'embuaient de larmes, les nez reniflaient, les mains se cherchaient. Le soleil commençait doucement à décliner, au loin, derrière la ville et la forêt. Dans quelques heures à peine, les 12 coups du birthday sonneraient. Dans quelques jours, on élirait un nouveau conseil, de nouveaux ministres, une nouvelle reine. Déjà, de nombreux adolescents avaient supplié Augénor de se présenter, de ne plus se contenter d'être conseiller.
« On verra, » avait répondu le grand cerf avec détachement. « On verra, ce n'est pas l'heure d'en parler. »
Soutim finissait de chanter. Le vent se levait, ridant la surface du bassin et faisant claquer le drapeau. Le bleu du ciel virait au gris, pas seulement à cause de la nuit. L'orage menaçait, ou tout au moins la pluie, avant minuit. Augénor s'avança encore à un dernier tour de roue. Il n'en avait pas tout à fait terminé.
« J'aurai besoin de femmes et d'hommes forts, » déclama-t-il. « Bien plus forts que moi. Pour nous défendre, vous l'avez compris, mais pour une autre mission aussi. J'aurai besoin de femmes et d'hommes forts pour élever ici, sous mes roues, devant le château et face à ce jardin qui sera à jamais le nôtre. Une montagne. Oui, une montagne. Et chacun, à la mesure de ce qu'il pourra faire, y apportera sa part de terre, ne serait-ce qu'une poignée. J'aurai besoin de femmes et d'hommes forts pour porter jusqu'à notre nouveau château, puis jusqu'au sommet de cette montagne nouvelle, le tombeau de notre mère. Elle veillera sur nous, et nous veillerons sur elle. Sur le fronton de ce mausolée, en haut de cette montagne, nous graverons ces mots que nous ne devrons jamais oublier. C'est toujours ce que j'ai voulu, que se lève un monde nouveau et que celui-ci soit plus beau. Je vous en laisse les clés, à vous désormais de le protéger. »
Cette fois, lentement, sans cri de joie ni débordement, mais conscient de l'importance de l'instant, tous les adolescents frappèrent dans leurs mains, autant pour s'encourager que pour remercier celui qui, désormais, les guiderait. Alix et Zizo, Sabi et Akan, Agnel et Lunella n'avaient pas assisté à la cérémonie. Ils n'avaient pas mêlé leurs bras à ceux qui avaient voté les pleins pouvoirs à Augénor. Ils n'avaient pas joint leurs mains à celles qui avaient applaudi son discours. Ils s'étaient isolés dans la chapelle royale pour veiller Solario. Il reposait sur le grand autel, au cœur de la nef, sous l'immense dôme peint de l'église. Le corps de Solario avait été recouvert d'une tapisserie trouvée dans la librairie des princes. Tissée de fils d'or et d'azur, elle datait d'au moins 500 ans, d'après Valère, et représentait le monde tel qu'il était connu à l'époque par les premiers explorateurs. Une Afrique déformée, une Amérique rabougrie, une Asie inconnue, des pôles nord et sud disparus. Un nouveau monde à découvrir, ce monde dont avait rêvé Solario. Lunella et Agnel, inconsolables, étaient agenouillés devant le corps. Lunella avait perdu à jamais celui qui était son frère, et même un peu plus que son frère. Agnel avait perdu celui qui était son ami, et même un peu plus que son ami. Sabi avait allumé dans la chapelle toutes les bougies, tous les cierges qu'elle avait pu trouver, des centaines. L'église brillait comme un soleil. Lunella enfin se releva. Elle fixa longuement la tenture, laissa ses mains filer sur les mers d'azur, sur les terres d'or, et parvint à prononcer quelques mots entre de longs sanglots.
« Nous trouverons, frérot, nous trouverons un nouveau continent. Nous nous y installerons, en paix, pour tout reconstruire. Pour toi, Solario, pour toi, ce nouveau continent portera ton nom. »
Agnel s'était lui aussi relevé derrière elle.
« Nous donnerons aussi ton nom à notre bateau, » ajouta son ami. « Le Solario. Il voguera partout. Il longera chaque côte. Il accostera sur chaque île. Il remontera chaque fleuve. Et partout, les enfants du nuage salueront ton nom, celui de notre réconciliation. »
Il prit la main de Lunella et tous les deux la posèrent sur le linceul. Le silence et leur recueillement auraient pu durer une éternité. Akan fut le premier à les briser. Il s'était assis sur un banc, un peu en retrait, à côté d'Alix et de Zizo, des yeux secs. Personne n'avait jamais vu Akan pleurer. Mais il avait besoin de parler. Il avait été le dernier à voir Solario vivant. Il avait combattu à ses côtés, devant le pavillon du rocher. Il l'avait vu entrer pour aller délivrer cet enfant prématuré, cet enfant qui, au lieu de l'accueillir tel un sauveur, l'avait étranglé.
« Alors c'était vrai, » fit Akan d'une voix basse. Eugénor avait raison, au fond, depuis le début. Ces prémas sont des animaux dangereux, imprévisibles, nuisibles.
Il laissa son regard glisser sur les statues d'anges dorés et joyeux dans la nef. Ils avaient des visages d'enfants, comme s'ils n'étaient pas plus vieux qu'eux.
« Je ne sais pas ce qui a pu se passer, » répondit Alix avec douceur. « Je ne comprends pas. »
Akan, le regard noyé, figé en direction du long linceul, paraissait ne pas l'avoir écouté.
« On aurait dû se douter, »
continua-t-il, le visage déformé autant par la douleur que par la colère.
« Les cauchemars de ce préma quand il dormait, quand il se réveillait en hurlant « Or, or !» Ce mot signifiait « mort, mort !» On aurait dû se méfier de ces crises de folie. On aurait dû se douter qu'un jour ou l'autre, cette folie ne se contenterait pas de la nuit et frapperait en pleine journée.
Agnel pleurait toujours au-dessus du corps de Solario, sa main crispée sur le tissu d'or.
« Pou n'était pas fou !»
se contenta-t-il de gémir.
« Pou n'était pas fou !»
Lunella serrait elle aussi le linceul, sa tête appuyée sur la haute et fine épaule d'Agnel.
« Pou n'était pas fou !»
répéta-t-elle d'une voix octante.
« Mon frère l'avait apprivoisé. Mon frère savait ce qu'il faisait. Il aimait Pou. Et Pou l'aimait. Il s'est passé quelque chose. » Quelque chose que ni lui ni Pou ne pouvait prévoir. Quelque chose qui a poussé Pou à le tuer.
J'étais là, soupira Akan en se levant et en gravissant les quelques marches de l'hôtel. Ils étaient seuls, tous les deux, dans le pavillon. Ça n'a duré que quelques secondes. Personne d'autre n'est entré. Personne d'autre n'est sorti.
Sabille alluma trois derniers cierges qu'elle disposa en demi-cercle autour du corps de Solario.
« Il faut nous rendre à l'évidence, » admit-elle. « On s'est trompé d'ennemi. On a tout misé sur ce préma qu'on trouvait si gentil. On était prévenus. On ne s'est pas méfiés. »
Alix s'approcha des cierges, comme si les flammes pouvaient sécher ses larmes. Elle serra son poing et se frappa le cœur.
« C'est ma faute, » murmura-t-elle. Je suis inconsciente. Je suis la plus irresponsable de toutes les reines. Sans moi, Solario serait encore vivant. J'ai essayé de faire libérer un meurtrier. J'ai fouillé dans les affaires intimes de mon conseiller. J'ai...
Zizo prit tendrement la main d'Alix et leva les yeux vers le dôme, 50 mètres au-dessus d'eux, s'étirant le cou pour distinguer le détail des peintures sombres jusqu'au vertige. On a pris la décision ensemble, fit-il d'une voix douce. Tous ensemble. Seuls Lunella et Agnel ne disaient rien. La figure dévastée. Des larmes sans fin coulaient de leurs yeux jusqu'à la carte brodée, inventant de nouveaux océans. Agnel les essuyait pour qu'elles n'inondent pas les terres d'or, mais elles retombaient aussitôt en cascade. Il frottait ses yeux, épongeait le tissu, ses mains passaient sans cesse du linceul à ses paupières. Elles s'arrêtèrent enfin, figées en l'air. Agnel se tourna lentement vers les autres occupants de la chapelle.
« Vous sentez ?»«
Sentir quoi ?»
s'étonna Lunella.
« Cette odeur !»
précisa Agnel d'une voix à peine audible.
« Cette odeur ! Penche-toi sur le drap !»